this presentation is again going to be in French. So if you want to make use of the excellent translation services, yes, Monique is handing out headphones. There's also translation in Dutch. I know that. I don't know. I'm talking with.
C'est chouette comme discret, hein. C'est super. C'est pas un concert. Très naturel.
To introduce Dominique, and I'm very, very happy she could be here today. I need to make a bit of a loop. I'd heard about her work a long time ago. I knew what she was busy with. I wanted to see her performance and see her in person, but for some reason it never worked out. But the good thing about working in groups is that there's always other people that then can go see a performance or talk to you about it or make a journey. And this is what Pierre and Anne in the end did. So I would like to ask Anne to introduce in a bit. I first would like to talk just a little bit about why we are so happy that you are here. We talked all morning about software, and now suddenly we are in theater. But actually, throughout the last few days, we've seen there's a lot that these two spaces have in common. And in this thinking of how language can become story, or how you go from a code to a narrative, there it's actually where we often cross performance, theater, poetry. And the work of Dominique is actually very inspiring in thinking about these kind of movement between different disciplines and different kinds of performative spaces. And this is why we are happy to have you here today.
Moi, je vais parler en français. voilà. Moi, j'avais proposé d'inviter Dominique parce que j'ai vu la performance Smatch qu'elle a présentée au sein du Kunstfestival des Arts, qui m'a d'abord beaucoup plu. Et puis, quand on a parlé de la thématique du festival, ça me paraissait intéressant de joindre son approche ici à la matière qui est sur la table. Peut-être j'introduis pourquoi ou on se lance.
Non, vas-y, dis.
Ok.
C'est pas du tout. Bonjour à tout le monde. C'est pas du tout mon habitude de faire un exposé et je suis plutôt généralement dans le dialogue, voilà, constamment. Donc c'est assez difficile pour moi. Je vais essayer d'être le plus clair possible, mais je pense que c'est si Anne pose des questions ou intervient, ou vous n'hésitez pas, ça m'aide à rebondir en fait. Voilà.
D'un part, je vais commencer avec ce spectacle Smatch, parce que c'est un point de départ très concret. Et ça permettra de l'approfondir par après. En fait, ce qui était assez fabuleux, c'est que Dominique a pris la scène théâtrale comme un espace pour poser un problème, le questionner et le commenter. Et tout le processus de toute la narration, en fait, a été construite à partir d'idées d'autres qui ont été apportées par les gens qui participer à la pièce. Donc, quand on s'est rencontrés, je lui ai posé la question, mais comment tu es arrivé à utiliser ou investir la scène d'une telle façon? Voilà, je vais te laisser la parole à partir d'ici.
Oui, d'accord. Je ne travaille jamais non plus avec les images. Ceci est la première fois, ce match. Alors, je vais en profiter. Je vais mettre... Oups. Mais... Attendez. Est-ce que ça va défiler comme ça? Non, hein, ça marche. Ça reste. Ouais. Voilà.
Oui, la barre d'espace va permettre...
Oui, c'est ça. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est la petite illustration que j'avais choisie pour ce match. En fait, ce match vient d'abord d'une invitation que Christophe Slachmuller m'a faite en me demandant, voilà, j'avais une carte blanche et je pouvais faire ce que je voulais. Ça pouvait être un spectacle, ça pouvait être une performance, ça pouvait être une exposition. C'était très, très ouvert. Et il m'a demandé, voilà, je suis partie quelques jours et je suis revenue avec ce titre que je n'avais pas du tout avant. Peut-être le titre d'abord, qui Smatch, que je définirais comme un genre. Et qui est la contraction de smash, qui veut dire écrabouiller, et briser, et match, qui veut dire aller ensemble. C'était aussi pour moi, smash, ça résonne comme un mot anglais, mais c'est du mauvais anglais, donc c'était aussi un peu un clin d'œil à ma mauvaise connaissance des langues. Et puis, ça pétillait. Et match, c'est aussi une allumette. Voilà. Donc ça, c'était l'idée, et ça faisait longtemps que je rêvais de pouvoir trouver un espace, un endroit où je peux, où on peut s'arrêter ensemble avec les spectateurs autant que les acteurs, s'arrêter pour penser joyeusement. La thématique, donc, du premier smash, parce qu'il y en aura d'autres, s'intitule. Si vous désespérez un singe, vous ferez exister un singe désespéré. Et là, en fait, c'est en réaction à... on en a beaucoup parlé avec Christophe avant qu'il m'invite, sur l'idée qu'on est dans un catastrophisme ambiant depuis, pour moi, de nombreuses années. Maintenant, tout le monde en parle, mais ça fait longtemps que j'y pense. Et que le fait, on nous place toujours dans un endroit où... où on nous emmène dans la catastrophe, dans le négativisme et dans surtout l'idée que nous ne sommes plus, nous sommes totalement impuissants. Alors voilà, j'avais envie de répondre à ça. Et le titre, donc, si vous désespérez un singe, vous ferez exister un singe désespéré, vient d'une expérience de Harlow, qui est un psychologue qui a voulu démontrer à ses pairs que le fait d'abandonner que l'enfant soit privé de sa mère cause une série de problèmes. Donc, pour ce faire, il a bousillé des centaines de singes qu'il a mis dans des cages pour bien prouver ce que tout le monde savait déjà, puisque c'était juste après la guerre 40-45, qu'il y avait déjà tous les orphelinats qui avaient été ouverts et que, et bien entendu, les enfants sans père ni mère rencontraient de grands traumatismes. Donc ça m'amusait parce que j'avais envie de travailler sur les animaux, donc je trouvais que cette phrase était assez pertinente. Et d'autre part, elle me renvoyait alors à une période de ma vie avant d'avoir fait le conservatoire. Donc j'ai fait le conservatoire à 30 ans, et avant j'ai travaillé pendant 8 ans comme assistante sociale dans un centre psychomédico-social. Tout un programme, mais surtout, cette période de ma vie m'a permis de rencontrer très très tôt. Je parle un petit peu de ça parce que vous allez voir qu'il y a des correspondances avec la suite, il y aura quelques jonctions à faire. J'ai eu l'occasion de rencontrer très tôt des gens qui m'ont fait réfléchir sur deux choses qui ont été assez fondamentales pour moi, qui sont d'abord les attentes. Et j'ai eu l'occasion de travailler et de rencontrer Odette et Henri Bassis, qui sont les fondateurs du groupe français d'éducation nouvelle, qui est un mouvement pédagogique centré sur la réussite et comment est-ce qu'on peut mettre en place une série de dispositifs qui permettent à tous les enfants, ils disent bien tous, de réussir. Et j'ai fait un jour une démarche qui a duré toute une journée, puisque le principe de l'apprentissage, c'est il parle d'auto-socio-construction, ce qui veut dire qu'on a non seulement une partie dans la façon dont on va apprendre les choses, une partie individuelle, personnelle, qui est très importante. La deuxième, socio, ça veut dire qu'on socialise, donc en fait on travaille tous sur des parties de savoir qui vont amener un savoir collectif et construit. Donc on a fait cette journée sur les attentes. Et notamment, j'ai pu vraiment, du plus profond de moi-même, comprendre et ce que c'était que le fait d'avoir... Il y a des places là, s'ils veulent. Non, je ne sais pas. Yeah. D'accord, ça va. OK. Vous voulez... les attentes qui à quel point quand on attend quelque chose d'une personne ou d'une situation, on met finalement, alors que c'est virtuel au départ, et on met finalement en place les choses pour qu'elles se réalisent. Donc ce qui veut dire que par rapport à la thématique générale et l'idée qu'on nous imprime un désespoir et une impuissance d'une manière très, très globale et très lancinante et constante, je m'étais dit, tiens, réfléchir à cette question-là, et si on partait de l'idée qu'on peut trouver des endroits où, en fait, la possibilité et l'invention existent. Alors, ça, c'était la première chose que j'ai découvert quand je travaillais comme assistante sociale. La deuxième, c'est que très vite, dans ce premier métier, j'avais l'intuition que les choses étaient décidées avant qu'elles ne se passent. C'est-à-dire que moi, on me demandait très souvent, mon rôle, c'était d'aller trouver les parents quand il y avait des problèmes à l'école pour leurs enfants. Et mon rôle était déterminé. Donc, il y avait l'institution, c'est là que je vais en venir, et moi-même. Donc, j'étais tout le temps en contradiction entre ce que moi, je voulais faire et ce que l'institution m'imposait de faire. Que ce soit les enseignants qui voulaient que détacher le problème et leur responsabilité, et que je devais aller soigner la famille, et dire à la famille qu'effectivement, ils devaient s'occuper de leurs enfants autrement, et que ce soit l'institution et les psychologues, qui, eux, avaient leur fonction de tester et de chercher à soit orienter, soit je trouvais très souvent confirmer ce que l'enseignant demandait qu'il confirme, c'est-à-dire que l'enfant avait des problèmes. Et j'avais l'impression que la manière dont on pouvait résoudre ce problème était toujours liée à la psychologie et aux problèmes personnels, que ce soit de l'enfant ou de la famille. Ça, c'était l'intuition de départ. Donc, quand je devais rencontrer les parents, je passais énormément de temps après le passage du psychologue à essayer de dire aux enseignants qu'en fait l'enfant avait des qualités, ce qui n'arrangeait pas l'enseignant, puisque, enfin, dans sa fonction, le fait de dire que l'enfant avait des qualités, ça veut dire qu'elle devait peut-être se mettre à travailler pour pouvoir faire en sorte que les enfants réussissent. Et j'ai eu l'occasion, et je les remercierai toujours, j'avais 14 jours par an de formation, donc je pouvais aller où je voulais. Et donc j'ai pas mal étudié et travaillé avec des gens qui font de l'analyse institutionnelle et de la pédagogie institutionnelle. Et ce qui m'a apporté le fait qu'en fait, il y a évidemment l'aspect psychologique et individuel de l'individu, mais il y a surtout aussi le fait que la situation et l'institution fait l'homme aussi. Et qu'en changeant l'institution ou en changeant les situations, l'homme se transforme presque naturellement. mais ça demande beaucoup de travail. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui m'a très fort passionnée. Et dans ce métier-là, j'ai très vite abandonné d'aller voir les familles qui, parfois, avaient trois générations d'échecs scolaires et sociaux et des problèmes sociaux énormes. J'avais une population de 20 000 élèves, donc je ne pouvais pas vraiment faire grand-chose. Par contre, j'allais le plus souvent... Enfin, voilà, j'ai réussi à ce que les psychologues, par exemple, ne donnent plus, je reviens à Rosenthal et aux attentes, ne donnent plus les résultats des tests aux enseignants, surtout quand ils n'étaient pas très bons. Essayer de réfléchir aussi avec l'école de comment empêcher qu'un dossier suive un élève d'une école à l'autre, par exemple. On a... Enfin, il y a évidemment plein d'expériences qui montrent que si on dit à l'école qui va recevoir l'élève que cet élève-là a été foutu dehors pour des problèmes d'indiscipline, deux jours après, l'enfant va reproduire cette indiscipline dans l'école où il est. Donc, voilà, j'essayais de me débrouiller, mais en sachant que l'institution dans laquelle j'étais me coinçait constamment. Il y a peut-être une petite histoire qui a fait qui m'a vraiment décidée et déterminée pour changer de métier et de m'en aller. C'est marrant, tiens, c'est avec les moutons, je n'avais pas fait le lien. Ça, c'est fou. Une genre de question qu'on me posait. Une institutrice qui voulait que l'enfant qui avait 5 ans double sa troisième maternelle. Il avait des gros problèmes déjà scolaires alors qu'il ne pouvait pas encore apprendre, qu'il n'apprenait pas encore... qui ne savait pas encore ni lire ni écrire. Et elle avait raconté l'histoire du Petit Prince et elle avait demandé aux enfants, à tous les enfants, de dessiner tous un troupeau de moutons. Et il y a un des enfants qui avait dessiné un mouton, un seul mouton. Donc elle est venue avec ça en me donnant la preuve que cet enfant avait des problèmes. Regardez, je lui ai demandé de dessiner tout le troupeau, tous, beaucoup, et il m'en a dessiné un. Et ça, c'était déjà le premier problème, il ne savait pas compter. Le deuxième, c'est que quand je lui ai demandé où étaient les autres moutons, il m'a répondu, ils sont tous cachés derrière. Alors, je me suis dit... Pour moi, cet enfant représentait toutes les qualités qui m'étaient chères, à savoir le fait qu'il était évidemment dans une très belle réponse et une très belle résistance par rapport à l'obéissance, et en plus avec un acte poétique que je trouvais magnifique. Voilà. Et donc je me suis dit, je vais m'en aller de là et je vais changer de situation. Qui va me permettre d'essayer d'en inventer d'autres dans laquelle je suis plus en accord avec moi-même. Voilà. Et le troisième volet, donc il y a les attentes, il y a l'analyse institutionnelle, les rapports de pouvoir aussi évidemment, hein, comment est-ce que dans une institution, l'institution organise le pouvoir et à quel moment les gens qui travaillent sont enfermés ou soit dans une grande liberté. Il y a une troisième chose, évidemment, aussi. Ça, ce sont des gens que j'ai rencontrés sur la relation à la résistance. Et je viens de Liège. Je ne sais pas s'il y en a qui sont liégeois ici, non ? Personne ? je viens de Liège, mais qui est une dans laquelle c'est une ville dont la culture est très syndicaliste et très liée à une résistance qui passe par la culture de l'ennemi. Je le résumerai comme ça. Hein. S'il y avait des gens de Liège, peut-être qu'ils me taperaient dessus, mais moi je le sens très fort. Donc on est dans une relation à la culture de l'ennemi. Et le fait de, encore, l'idée que la résistance passe, pour obtenir quelque chose, il faut renverser le pouvoir et prendre le pouvoir à la place de celui qui l'a pour le moment. Et là aussi, fondamentalement et intuitivement, je me suis toujours située dans l'idée que je pense que c'est à la périphérie que se passent les choses et qu'au centre, rien ne bouge, comme dit Heiner Müller. Et qu'en plus, cette manière, ces combats sociaux ont souvent, quand même, on le sait maintenant, ont posé des gros problèmes dès que ces gens se retrouvaient au pouvoir. Donc, les gens que j'ai rencontrés m'ont permis de me faire découvrir qu'il y a une grande fracture dans l'histoire de la résistance, qui est quand même assez récente, et qui fait que on peut aussi résister autrement, et que plutôt que de prendre le pouvoir, si on lit, je ne sais pas si vous connaissez Ben Assayag, par exemple, qui parle beaucoup de ça dans ses livres, notamment pour Une nouvelle radicalité, que je vous conseille. C'est pas très bien écrit, mais c'est très intéressant. Enfin, je veux dire, la langue, c'est pas super beau à lire, mais c'est intéressant. Où il raconte pas mal qu'en fait, dès qu'on a le pouvoir, on est impuissant. Et que maintenant, tous les mouvements de résistance, et je pense que Constant en fait partie aussi, ça se passe plutôt dans l'idée de créer des réseaux ou créer des situations dans lesquelles les gens peuvent se construire, réinventer des mondes, se les construire sans prendre le pouvoir et sans l'imposer nécessairement à tout le monde. Voilà. Ça, c'est le début.
C'est déjà très, très, très passionnant.
Donc voilà, donc j'ai fait le conservatoire. De d'art dramatique, en fait. Donc comme comédienne, mais j'ai très vite j'étais plutôt, je dirais, porteuse de projet, voilà. En sachant que toutes les créations, en dehors du fait d'avoir travaillé avec d'autres gens comme actrice, surtout en partant de faits de société et puis en les déclinant, enfin voilà, en racontant ce que j'avais envie de raconter, toujours avec l'idée d'une poétique plutôt que d'avoir aussi le côté politique ou militant ou dénonciateur. Ça aussi, c'est une des choses, par exemple, une des caractéristiques dans ce match que je veux continuer à éprouver, c'est l'idée d'être dans... qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai perdu le fil. Oui, c'est ça, d'être plutôt dans la poétique que d'avoir le nez sur l'actualité. Et d'être aussi toujours dans une idée d'un contre-pied, de prendre le contre-pied. Alors, pour ça, j'ai refait par rapport à l'invitation. Je me suis dit, tiens, j'ai un peu refait le parcours des autres, des précédents projets avant d'arriver à ce match. Hein, on va y arriver. Je vais changer. Hop. Et je me suis interrogée sur deux ou trois spectacles que j'ai faits. Je vais vous donner juste deux, trois lignes, mais en me rendant compte qu'à la fois, chaque fois, je prenais le contre-pied des choses. Donc, par exemple, le premier spectacle qui se passait dans... C'est juste une petite photo. Voilà, vous voyez juste là. Ça, c'est en fait une tête. C'est ce qui reste d'une jeune femme qui a passé sa tête par la fenêtre en voyageant par le train. Et donc, l'idée, c'était de parler de la peur, justement, déjà, hein, donc à l'époque. De se dire, tiens, la peur, elle est partout, elle nous bloque, elle nous paralyse, mais elle est aussi d'aller rechercher son inverse. Donc comment est-ce que, en fait, la peur, c'est la première idée, c'est le premier mécanisme de survie. La peur, c'est probablement un des phénomènes qui amène le plus à une créativité et une imagination sans bornes. Dès qu'on a peur, on se fait les plus beaux films du monde. Et ça peut être un amusement aussi. Voilà, donc le premier déjà, en fait, c'était un spectacle déambulatoire dans une gare abandonnée à Liège, à Jonfosse, qui a été après rachetée comme salle de concert. Mais à l'époque, elle était vide. Et donc, les spectateurs rencontraient une série de personnages qui étaient restés dans la gare et qui avait effectivement, chaque personnage avait développé certains problèmes liés à la peur et le communiquait aux autres. Alors, ça c'était le premier. Le deuxième, ça s'appelait Le Paradis des Chiens. Et c'était un spectacle avec 17 vieux acteurs. Je vous dis, parce qu'il y a aussi des jonctions avec mon autre métier. C'est-à-dire qu'il y avait 17 acteurs sur le plateau, et dont 8 avaient plus de 80 ans. Et il y avait 6 professionnels et tout le reste amateurs. Et j'étais partie de l'idée, donc justement, j'avais rencontré un vieux clochard à New York. On était en résidence pendant 6 mois là-bas. Et je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce qui fait qu'il est resté en vie par rapport à toute l'histoire qu'il m'a racontée? Et puis voilà, j'ai commencé à réfléchir, à me dire, tiens, et si on parlait du vieux, non pas sur la nostalgie, mais sur le maintenant, si on pouvait mélanger, si on imagine une maison de vieux, lui était dans une maison de vieux, tous les gens ont affaire ensemble, n'ont rien demandé, n'ont pas demandé à être là, ne se rencontreraient probablement pas du tout si dans la vie normale. Et si j'allais interroger les vieux pour leur demander s'ils étaient d'accord de parler avec moi de la question qu'ils sont toujours bien vivants, qu'ils ont des projets, qu'ils peuvent résister à des choses, qu'ils peuvent inventer et qu'ils peuvent être dans la vie, en fait. Voilà. On m'a traité un peu de cinglée parce qu'on avait assez peu d'argent et que 17 personnes à mettre sur un plateau et en plus des gens qui n'étaient pas nécessairement habitués à ça, ça posait des problèmes. Et en fait, c'était moi, dans mon attente avant de commencer, c'était que je voulais à un moment donné pouvoir éprouver et peut-être après, peut-être faire réfléchir les autres personnes, de mettre une situation dans laquelle des gens qui n'ont rien à voir ensemble, on ne demande pas d'être dans l'amour parfait et l'idéal fleur bleue, mais des gens qui n'ont rien à voir ensemble peuvent à un moment donné s'organiser et défendre un propos commun. Il y avait des universitaires, il y avait une femme qui ramassait les poubelles, il y avait des Flamands, des Wallons, des gens qui ne parlaient pratiquement que wallon. C'était un mélange improbable et impossible. Et on a réussi à parler et à faire ce projet qui a été, je pense, assez émouvant, autant pour les gens qui l'ont fait que pour les gens qui l'ont vu, même s'il y avait des défauts sans doute, hein. Donc voilà, et on l'avait fait sous forme de métaphore aussi, donc plutôt que de partir de l'idée d'être de nouveau dans le militantisme au premier degré, c'était tout complètement poétique et métaphorique, puisque l'idée c'était ils avaient construit un cirque ensemble et ils faisaient des numéros, et chaque numéro était inventé et construit comme, par exemple, donc il y avait... Le réveil des fauves, j'ai pas de photo. Le réveil des fauves, c'est un titre, donc c'est un numéro de domptage, sauf que les fauves, c'était les vieux qui étaient dans leur lit et qui se réveillaient. Y avait le funambule de la mort, qui était en fait un vieux, mais qui se déshabillait presque complètement, qui était très, très marqué aussi, et qui faisait un grand saut dans le vide sur un fil qui, paf, se transformait sur, évidemment, le fil par terre. Je ne sais plus. Ce serait trop long à retrouver, je vais passer à autre chose. Dernière, j'ai eu une demande d'un festival de théâtre de rue qui s'appelle Le Dernier Chant. On me demandait de faire un entre-sort qui est une forme très courte où on entre, on voit quelque chose et on sort. Donc il y avait la femme sans tête, l'homme singe, enfin toute une série d'attractions qui se passaient. Et j'ai pris le contre-pied là simplement sur la forme, c'est-à-dire que j'ai fait un entresort où en fait on avait tous les codes de Walt Disney. Donc c'était la belle petite sirène parfaite, avec les cheveux roux. Donc tous les gens, on raconte l'histoire de la petite sirène, c'était dans une cale de péniche, et la petite sirène, en fait, les spectateurs assistent en direct à la noyade d'une sirène dans ses larmes, parce qu'une sirène ne peut se noyer que dans ses larmes. Donc il y avait vraiment tous les codes aussi de boniment, etc. Donc tous les gens écoutaient les marins, on découvrait, il y avait un grand tonneau, on ouvrait le couvercle, tout le monde criait « Oh, oh, c'est Ariel, oh, c'est magnifique !» Et puis tout de suite après, la dernière image, en fait, c'était le cadavre de la sirène qui, effectivement, donc on avait, enfin voilà, au fur et à mesure qu'elle chantait, qu'elle pleurait, qu'elle appelait son prince, il y avait aussi des références à Ophélie de chez Shakespeare, à Lewis Carroll aussi, eh bien, elle se noie. Et la dernière image, c'était le cadavre de la sirène. Et puis, on fermait le coffret et puis, c'était terminé. Et ce qui fait qu'en fait... Voilà, c'était une manière aussi de parler de comment on peut jouer aussi avec le spectaculaire, comment on peut séduire les gens très rapidement, comment est-ce qu'on peut les emmener dans une émotion tout en choisissant un contre-pied, de faire en sorte qu'à la fin, l'émotion n'était plus du tout celle qui les avait ravis et leur posait peut-être des problèmes de conscience, un tout petit peu. Voilà, je ne vais pas faire les autres, mais voilà. Donc, en fait, ce qui veut dire par là que le contre-pied a toujours été très présent dans... Là, c'est une balade en autocar. Une demande... parce que le théâtre était... Il n'y avait plus de théâtre, donc on s'est dit, on va faire une visite guidée en autocar. Et l'endroit où c'était le mieux, c'était, pour moi, à Paris. On l'a joué à Paris, au Festival Paris Quartier d'été. Et en fait, on allait visiter que des lieux qui étaient invisitables, moches, où il n'y avait rien, où en fait, on était dans des zones de no man's land complètes, où en fait, soit tout était démoli, ou soit tout était à reconstruire. Donc, on était dans l'endroit où la construction pouvait se faire simplement par les histoires que les deux guides nous racontaient. Le comédien avait appris à conduire le car. Et il nous racontait les aventures d'un certain Oscar Serti, qui est un héros d'un plasticien, Patrick Corion, et qui est passé par des endroits. Et chaque fois, on nous faisait réexister des lieux qui n'étaient plus là. Voilà. Et puis, ça, c'était amusant comme contre-pied par rapport à Paris, où en fait, le car ne se dirigeait pas vers le beau centre de Paris, mais vers Aubervilliers, tous ces endroits absolument Saint-Denis, très pourris, et on partait pendant une heure là-bas. Voilà. Puis donc, toujours cette question de comment mettre les gens en éveil, les spectateurs, comment les mettre dans la possibilité. Là, j'avais aussi fait, on m'avait demandé de faire un spectacle pour adolescents. Et déjà, la question du smatch était présente. Donc, en fait, j'avais fait une proposition à trois volets. Il y en a deux ici. On avait monté le texte de Jonathan Swift. Je ne sais pas si vous le connaissez. Donc, en 1729, il a écrit une modeste proposition pour empêcher les enfants des pauvres d'être à la charge de leurs parents ou de leur pays et pour les rendre utiles au public. Et c'est un texte magnifique, je vous invite à lire. Il n'a pas pris une ride et il propose comme solution radicale à la question des pauvres d'élever les enfants des pauvres comme viande de boucherie jusqu'à l'âge de 2 ans, puis de les vendre aux riches. Donc ça réduisait la pauvreté et en même temps ça remontait l'économie. Donc voilà, j'ai rajouté un deuxième volet qui était... la vie, la biographie de Nicoletta, qui est une jeune femme hongroise sourde qui est arrivée à Liège et qui racontait en opposition sa vie, et ça s'appelait Modeste témoignage pour empêcher les enfants d'être en charge de toute la tristesse du monde et pour les rendre attentifs malgré tout aux multiples possibilités de la vie. Voilà. Et il y avait un troisième volet, on présentait les deux, et le troisième volet, en fait, c'était une démarche d'autosocioconstruction, donc, où en fait, je reprenais mon ancien travail, et les adolescents qui voyaient les deux propositions avaient des thématiques différentes pour construire un savoir commun autour de l'endroit où ils pouvaient encore résister. Voilà. Et puis donc, il y a eu aussi l'Opéra Bègue, qui est aussi un contre-pied dans le sens où, ben voilà, c'est déjà deux mots qui s'annulent, hein, normalement. L'opéra étant beaucoup plus lié à une forme où la beauté, le bien faire est très important et où j'ai construit ça avec... Peter de Beuyser, peut-être que vous connaissez, qui est un philosophe flamand qui fait aussi des performances et qui a aussi fait pas mal de spectacles pour la scène. Et l'Ode, donc c'était un spectacle musical. Et on a travaillé à partir de la métamorphose de Kafka, mais en changeant les données, en se disant, tiens, si on se posait la question de savoir, dans la métamorphose de Kafka, le propos est absolument magnifique, mais complètement sordide et très très noir. Et on est parti de l'idée, tiens, si on construisait si on travaillait sur une folie ou un délire, mais qu'en fait ce délire amène à faire en sorte que toute la famille se révèle beaucoup plus inventif, joyeux. Plus folle probablement que celle qui avait le délire, qui avait un arbre qui lui poussait dans la bouche. Et j'avais demandé à Peter d'écrire la pièce en se disant qu'à tout moment, dès que les spectateurs étaient dans on peut voir une photo, c'était sur des matelas, donc les gens étaient enfoncés en même temps dans leur petite bourgeoisie et leur confort. Et dès que les spectateurs étaient sur une assise, quelque chose d'un peu confortable, tout de suite, ils devaient écrire en s'amusant à rendre un nouvel inconfort ou une nouvelle question. Voilà. Et puis, il y a eu donc ce match. Et là, tu veux...
Non, vas-y, peut-être expliquer voilà. Comment, donc, ce que c'est, une petite description de oui. Ce que ça a été. Comment,
voilà, ouais. D'accord. Donc, le point de départ ici, donc, le point de départ est venu en même temps que si vous désespérez un sage, vous ferez exister un sage désespéré. C'est une carte que vous devez sûrement connaître, qui a fait un certain tour... Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Peut-être quand même donner des explications à certains.
Donc c'est une carte qui a été publiée dans un petit magazine flamand sur les. J'ai pas ici le. Par qui ça a été fait pas exactement, mais c'était 146 Bildungskunst. Des endroits de artistiques en Flandre. Sauf art plastique, sauf que donc cette carte était au milieu, non pas au milieu, page 6 et 7, je vois. Et ben voilà, la chose, c'est qu'ils n'ont pas fait que parler d'eux, ou ils n'ont fait que parler d'eux, je ne sais pas très bien. Mais donc voilà la représentation, par exemple moi et la compagnie, et nous ne sommes même pas sur la carte, puisque Liège n'est pas représenté. Donc on trouvait que c'était... un beau point de départ, amusant, pour parler du regard et de comment la représentation de quelqu'un, d'une communauté, d'un pays, de poser cette question-là.
Est-ce que c'est clair pour les gens qui ne connaissent pas les spécificités de la Belgique? Oui, ok. Avant qu'on avance, parce que est-ce qu'il y a des questions? Toi, tu veux parce que on a aussi une histoire avec cette carte, en fait.
un petit peu par hasard. Enfin, moi, j'étais pas mal amusé il y a quelques mois de la retrouver chez Dominique. Mais c'est la sortie de cette carte, donc qui a été publiée par le BAM, qui est le Bild. Voilà, l'institution flamande qui s'occupe, donc publique, hein, qui s'occupe du media art, des arts plastiques et c'est tout. Et de l'audiovisuel, oui. Et qui donc ont publié cette brochure et on travaillait dans le cadre d'OSP Constant au même moment pour eux et on était en train de travailler sur des cartes. Donc ça a été un peu un choc de voir celle-là et on se rendrait compte qu'il y avait quand même des problématiques, disons, liées au territoire. Et donc cette carte, pour peut-être faire une petite traduction en français et en anglais, Belgique veut dire Belgique, Wallonie, Wallonie, Belgium en Wallonia, et Ostdeutschland veut dire Allemagne de l'Est, si je ne me trompe pas. Donc, Allemagne de l'Est is East Germany, and les villes principales wallonnes sont. Donc, on se rend compte qu'il y a effectivement quelques institutions qui sont pointées. Ornu, c'est pas par hasard, c'est un petit village, mais il y a un grand musée de la communauté française. Enfin, c'est pas un village, non, c'est une ville. Mais voilà. Et que donc l'idée de l'ouverture, de publier une carte qui parle des autres ici, puisque c'était quand même en partie ça, se retournait, se repliait d'une manière effroyable. Et bon, nous, on s'est posé beaucoup de questions sur comment parler de cette carte, rendre compte, pas. Et puis moi, j'étais très content de l'avoir transformée dans le spectacle de Dominique d'une belle manière. Voilà. Je ne sais pas si c'est assez clair.
Non, voilà. Non, mais donc, en fait, donc c'est surtout ça qu'on s'est amusé à poser. Comment est-ce qu'on peut poser, comment est-ce qu'on peut parler, essayer de parler de ce problème-là, du problème des attentes, sans être dans le conflit, se retrouver enfin, c'est une situation extrêmement complexe et longue, l'histoire de la Belgique. Et en même temps, elle est tout le temps là. Donc, on avait envie de faire une réponse qui permette de nous envoyer ailleurs, de ne pas de nouveau répondre frontalement, de ne pas être dans l'idée de penser la différence contre, mais d'essayer de trouver un contre-pied. Alors, lequel est-ce qu'on a choisi ? Puisque j'avais déjà envie de parler des animaux depuis un certain temps, mais on s'est posé la question, voilà, et le spectacle commence comme ça. En fait, on projette la carte et on s'interroge tous ensemble en disant, mais tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Tiens, t'as vu Dominique? Enfin, c'est l'autre wallonne, Anne-Cécile. Tu as vu? Bah oui. Et Mick Verdun, qui est une actrice flamande, bien sûr, on a aussi apporté déjà pour répondre à ça de d'être ensemble avec les Flamands et les francophones sur le plateau, et de s'interroger sur l'idée qu'en fait on nous a mis dans une espèce de mer qui est peut-être un désert puisqu'il n'est pas peuplé. Et tant qu'à faire, ben on va le peupler avec des animaux. Et Monsieur Delmotte, qui est le performeur artiste qui nous accompagne, dessine pendant qu'on discute sur cette question là de la Belgique et de la Wallonie. Lui reprend et recolorie tout le bleu, il réentoure et qu'est-ce qu'il fait? Il dessine un cochon. Donc on va peupler notre partie bleue là, ce désert avec des cochons. Voilà, ça commence comme ça. À partir de là. Je vais montrer l'espace. Donc, l'espace étant, est-ce que c'est voilà, l'espace était une espèce de donc c'est un bifrontal. Les matchs et ça, on va continuer à le garder. On y a pensé probablement dans l'idée des deux communautés, mais aussi l'idée d'être c'est comme un laboratoire et en plus on est tout le temps vu, mais en même temps on est très proche des gens. Et donc c'est une espèce de bureau avec tous les accessoires qui nous servent et on cherche et on essaye nous-mêmes de construire un sens pendant tout le temps de la représentation. On a deux écrans qui sont mobiles. On est parti d'une idée de smatch qui va rester aussi pour chaque fois, de se donner comme contrainte, comme l'abécédaire de Gilles Deleuze, donc de reprendre des mots qui vont construire la pensée et qui ne peuvent être que des mots qui commencent par les lettres de smatch. On voulait absolument qu'il y ait le mot possibilité, mais il n'y avait pas, ça tombait bien, c'est mogelijkheid en flamand, donc c'est le seul mot en flamand qui apparaît à un moment. Et donc, on va partir des deux chemins. Le chemin de Vinciane Després, qui est une philosophe qui a étudié pendant au moins une dizaine d'années les animaux, et surtout, plus que les animaux, toutes les personnes, les scientifiques ou les amateurs ou les dresseurs, tous les gens qui sont proches des animaux. Et d'étudier, d'abord, elle a d'abord étudié les scientifiques, dont par exemple Arlo, hein, d'étudier la manière dont les scientifiques ont permis d'avancer et de faire des découvertes incroyables sur les animaux. Ça part évidemment des attentes. Bon, je prends un exemple, j'ai oublié tout de suite le nom là, de une grande primatologue. A travaillé pendant 50 ans pour étudier les singes, et puis elle a décidé à sa pension, c'est pas Haraway, c'est une Anglaise. Non. je sais plus, ça va me revenir ou je vous enverrai un petit mail pour donner son nom, mais voilà, elle a décidé à un moment donné de s'occuper des moutons et d'interroger le mouton. Donc nous on s'est surtout intéressé en fait aux animaux les plus stupides et qui sont généralement que des steaks dans notre assiette et qu'on n'a jamais étudié que comme ça. Donc elle a décidé à un moment donné, après 50 ans, de se mettre dans la montagne, dans la grande campagne sauvage en Angleterre, de prendre un troupeau de moutons avec elle, de prendre le temps nécessaire de les observer, de mettre en fait toutes les conditions et une situation dans laquelle l'animal peut se montrer autrement que d'être un bon steak dans une assiette. Et à ce moment-là, elle a inventé, elle a cherché énormément de temps pour créer des familles de moutons, parce que généralement, on avait observé des moutons qui venaient d'un peu partout, on les mettait ensemble, ils avaient tous le même âge, hein, 3 mois, on met tous des moutons, et puis on se rend compte qu'ils se battent pour la nourriture, parce qu'ils n'ont pas l'espace, donc elle les a remis dans des conditions naturelles et qui ont permis de découvrir des tas de capacités et des tas de formes d'intelligence chez le mouton. Voilà, donc en fait, il y a une série de... d'interrogations qu'on a faites. On a lu tous les bouquins de Vinciane, bien sûr, et surtout, moi, j'ai beaucoup, beaucoup enregistré. Donc, j'allais tout le temps parler avec elle, je mettais mon enregistreur et je la faisais parler. C'est comme ça qu'après, on a choisi les mots qui nous convenaient et puis on l'a... il se trouve que pour celui-ci, elle n'était pas libre, elle n'avait pas envie d'être sur le plateau, donc on a fait des interviews et tout le long du spectacle, elle arrive, elle parle sur un mot... Le premier étant le mot syntaxe. La syntaxe, ça tombait bien parce que la syntaxe, ça dépend. La syntaxe détermine la manière, le mode d'utilisation de la syntaxe permet chez les personnes d'être dans une pensée du monde. Donc, elle a notamment parlé beaucoup de l'agency, qui est une façon dont on donne de l'action et du pouvoir et de l'intentionnel aux autres mondes et aux autres modes d'être que le modèle humain. Elle est en train maintenant de travailler sur l'agency aussi avec les morts, d'ailleurs. Comment est-ce qu'on peut donner tout d'un coup de l'intentionnel chez les morts? Et elle parlait évidemment du fait que tout de suite, donc en réponse à la question de la carte, nous avons été... nous nous sommes posé la question de savoir quand on parle des animaux, sur des idées qui sont tout le temps dans le fait, dans, non pas dans l'action, mais dans l'être, dans le passif, quelles sont les conséquences? À partir du moment où on dit, si un agriculteur dit qu'une vache, c'est un animal qui prend du temps pour faire les choses, ça parce qu'elle est allée interroger aussi après les scientifiques, et des gens qui sont très très proches. Par exemple, notamment des éleveurs, c'est un petit bouquin qui est magnifique, qui s'appelle Être bête, qui est chez Actes Sud, et où elle a interrogé les hommes, les éleveurs, en leur posant la question de la différence entre l'homme et l'animal. Et puis, deux questions sont venues. La première, c'est qu'en fait, elle s'est rendue compte que ce n'était pas du tout une question qui intéressait les éleveurs. D'où aussi, évidemment, le point de vue. Tiens, si de temps en temps, quand on interroge ou on fait quelque chose, si on se mettait aussi du point de vue de l'autre. Et que tous les éleveurs qui étaient évidemment des élevages, pas des éleveurs de viande sur pâte, mais des éleveurs qui ont des petits élevages, qui sont dans un rapport où ils ont encore un contact avec l'animal, hein, tous ont parlé des ressemblances. Donc, plus ils connaissaient l'animal, plus ils étaient en lien avec lui, plus ils cherchaient à être dans la ressemblance. Voilà. Donc c'est ce genre de questions comme ça, et ça se terminait avec le fait que tout le monde à la fois pouvait se faire le fil, les gens, certains restant uniquement sur « j'ai appris des choses sur l'animal », d'autres pouvant aussi se dire qu'ils pouvaient transposer éventuellement sur le rapport à l'étrange, à ce qu'ils ne connaissent pas. En sachant qu'elle a travaillé avec les chercheurs et les éleveurs et les gens qui travaillent avec les animaux, parce qu'elle dit que ce sont les gens qui sont les plus joyeux et les plus inventifs qu'elle connaisse, parce que le pari est tellement énorme de pouvoir comprendre, étudier l'animal et, alors qu'il ne parle pas notre langue, que ce sont des gens voilà, très, très, très inventifs et joyeux.
Tu peux toucher un mot sur comment vous avez construit le...
Oui, donc y a l'idée donc, sur de la construction donc, du premier volet sur les animaux et le deuxième volet étant sur le désert. Donc on a parlé et on a mélangé et entrecroisé le parcours de Vinciane qui répond et qui parle, qui parle sur des mots qui lui sont donnés. On a échangé ensemble, bien sûr, avant. Et la question, on a suivi un chercheur. C'est un film. Je crois que j'ai oublié le nom. Magnifique film sur des chercheurs en physique. C'est un documentaire fantastique. Et notamment, dans les chercheurs, il y en a un qui cherche à faire chanter les dunes. Donc voilà, ça aussi, le contre-pied. Tiens, désert, il n'y a rien. C'est la mort partout. Ben, qu'est-ce qu'on va en faire? Et lui, donc, étudie et cherche. Et la dernière image du spectacle, d'ailleurs, se termine par... je pourrais vous la montrer, si vous voulez. Les scientifiques qui font chanter les dunes.
Et vous avez tous, parce qu'il y a plusieurs personnes sur la scène, oui. Vous avez tous travaillé ensemble dans ce...
Oui, alors ça a l'air... en fait, au départ, tout le monde dit que c'est très construit. Hein, et, au bout du compte, c'est très construit. Mais tout ce que je raconte là, c'est parce que c'est fini. Hein. Parce que le début, évidemment, on ne savait pas. Enfin, si, on savait qu'on voulait parler de ces deux choses-là. Mais... on ne savait pas du tout comment on allait pouvoir tricoter et on ne savait pas du tout à quoi allait ressembler le pull. Donc évidemment qu'on a découvert ensemble à un moment donné, ben on a joué avec le sable et puis on a fait une petite performance où en fait on a mis des couches superposées de couleurs qui sont les couleurs du drapeau belge et puis le performeur fait voler le sable et fait qu'à un moment donné le drapeau apparaît et puis il disparaît et puis il se remélange. On ne savait pas que le sable, je ne sais plus comment c'est venu à un moment donné la question du sable... comment on allait pouvoir le faire venir jusqu'au bout. Parce qu'on termine, en fait, on parle des animaux, on parle du sable, et la dernière question, avec possibilité, on interview Isabelle Sengers, qui est philosophe, enfin, toi tu la connais, mais j'imagine que d'autres la connaissent aussi. Et elles deux parlent et en fait font le lien avec le tout. Et notamment sur l'idée de la question du désert et de comment on s'est battu, comment on fait quand une région se désertifie, comment on fait pour empêcher que la dune vienne avaler un village. Surtout pas construire un mur, c'est sûr, parce qu'elle va passer au-dessus. Par contre, si on commence à bien connaître la dune, à étudier les vents, à savoir comment elle voyage et comment le sable voyage, on peut créer des chemins qui font que la dune peut continuer à s'étendre, donc qui est la vie pour chacun, quoi, mais que la dune passe à côté du village et pas au-dessus.
Ça, c'est une très, très belle image pour terminer, je crois. Parce que l'heure est passée. Oh ça a l'impression d'avoir duré 5 minutes, mais il est 4 heures. Et il y a d'autres rendez-vous, donc je veux, si ça te dit, laisser un peu les réactions, les questions par rapport au bel exposé que tu as donné. Est-ce que...
Vous engagez aussi le spectateur dans quelques de votre performance ou allez ou comment c'est les gens sont assis et ils regardent ou il y a un moment où il y a
je vais parler comme ça parce que ça serre fort aux oreilles à la tête engagé physiquement ou participatif non. En tout cas, pas dans celui-ci, mais il y a quand même, en fait, dans celui-ci, je crois que c'est vraiment uniquement au niveau de la pensée. Ça, oui, parce que tout est construit, c'est un grand bordel. C'est un peu l'inverse aussi de ce que je vois souvent sur les plateaux qui sont, quand, en fait, on passe à la déconstruction tout de suite, donc on a un plateau magnifique au début, et puis à la fin, ça se termine en gros bordel. Et juste aussi, comme contre-pied, j'avais envie qu'en fait, on ait l'impression que c'est un gros bordel et un gros fouillis, qu'en fait, au fur et à mesure que les choses s'agencent, on arrive à une construction d'un savoir. Donc là, c'était vraiment plutôt mental. Si ce n'est que physiquement, on est très proches. Si ce n'est que la dernière image aussi, M. Delmotte, il met des petits poissons dans des ampoules. Qu'on enferme, donc on a à la fin la dernière image, ce sont les petits poissons qui sont vivants dans les ampoules. Et donc il fallait évidemment tout de suite les retirer pour pas que les poissons crèvent. Hein. Ça aurait pas été bien, je crois. Donc on est tout de suite en train de dévisser les ampoules et c'était chaque fois l'occasion pour plein de gens de venir nous parler. Tout de suite, et tout de suite aussi en réaction, parce que de nouveau, c'est double. À la fois, c'est une très jolie image, ça peut être une image très poétique, et en même temps, pour certains, ça représentait la prison, ça n'allait pas, comment est-ce que vous pouvez finir comme ça ? Enfin bon, il y avait toute une série de débats. Mais dans les autres spectacles, les gens interviennent toujours un tout petit peu. Même pour mettre des chaussons blancs quand on dans une tente, ou pour gagner un porte-clé dans le car ou pour se déplacer. Oui, c'est toujours très délicat. Hein. On ne peut pas demander aux gens d'intervenir.
Pas seulement les humains. Dans le car, il y avait quelqu'un qui arrivait à la fin comme un espèce d'autostoppeur, mais ce n'était pas très clair comme statut. Et même si ça n'engageait pas... physiquement chacun dans une démarche, il y avait un espèce de rapport au public assez, assez étrange, parce que du coup c'est quelqu'un qui avec un statut pas du tout clair, est-ce que c'était improvisé, est-ce que c'était vraiment quelqu'un un peu en rade, enfin, moi je l'ai vu dans la pluie à Bruxelles, à côté de l'OTAN, c'était plus déprimant que ça, enfin non, le spectacle était magnifique, donc on rigolait beaucoup, mais on pouvait imaginer qu'il y ait quelqu'un qui soit, c'est pas comme la photo là où il fait beau, qu'il y ait quelqu'un qui soit vraiment en rade là, disons. Mais c'était un monsieur avec son petit garçon, comme un réfugié, un rapport pas très clair et qui en fait engageait autrement le public, disons, dans cette espèce de solidarité ou pas, autre ou avec ou...
C'était pas n'importe qui, c'était un gitan. Hein. Donc on avait là par exemple, mais ça c'est les interventions, mais c'est pour chaque projet. Mais voilà, c'était la question, comme ça se passait, c'était un travail. Le personnage était un exilé de l'Est et que les gitans m'ennuyaient à côté de chez moi parce qu'ils mettaient leurs poubelles. J'avais envie de les connaître un peu mieux, donc je fais toujours des jonctions. Donc je me suis dit, tiens, bah, la meilleure manière c'est d'aller les rencontrer et de mettre en place aussi. De travailler avec de faire le pari de travailler avec des gitans qui ont 99,9% de non-emploi et en l'occurrence de pouvoir peut-être l'aider à ce qu'il puisse avoir ses papiers, donc ce qui était le cas. Donc il a vraiment été engagé, mais pour ne rien faire, c'est-à-dire si ce n'est que de troubler les gens, de se retrouver à côté d'un gitan tout d'un coup, mais qui n'était pas là, parce que lui, au début, il me disait, je peux jouer de la guitare, je peux... Ah, il voulait évidemment faire tout ce qu'il pouvait montrer. Et j'ai dit, mais non, surtout pas, enfin, surtout pas, t'es juste là, quoi, faire un petit bout de voyage. Donc, voilà, c'est toujours très, très ténu, mais si ça peut donner encore des questions aux gens, oui.
Un tout trop grand merci. C'est super beau, super intéressant et très très je n'ai pas perdu l'attention une seconde, donc voilà, merci beaucoup.
Oui. Merci.
We take another 5-minute break. We try to resolve some technical problems, but we don't hide our problems. That's the idea. So you will see some of them. So take a coffee and enjoy.